Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florence, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de retracer le parcours de Bérengère Krief dans un cadre un peu particulier puisqu'on se retrouve autour du feu de la cheminée dans ma maison lilloise. Bérengère et moi, on se connaît depuis bientôt 10 ans et après avoir joué son premier spectacle pendant 7 ans, elle vient de marquer une pause de 2 ans dans sa carrière sur scène pour mieux revenir en janvier prochain avec son nouveau show qui s'appelle Amour. Depuis ses 30 ans, Bérengère s'est pris quelques portes de la vie d'adulte dans la figure et en a profité pour travailler sur elle. Ensemble, on retrace tout son périple qu'elle met d'ailleurs en scène dans ce nouveau spectacle très personnel et très touchant sur les dernières années de sa vie. Bérengère se livre dans cette interview et vous fait profiter des leçons qu'elle a tirées de toute cette période de tumulte. Un immense merci à elle pour sa confiance. Cette semaine, j'ai besoin de vous, ou plutôt le podcast Histoire de succès a besoin de vous. Il n'a que, entre guillemets, une cinquantaine de notes dans Apple Podcasts. J'aimerais que vous lui envoyiez de l'amour. Si vous avez un iPhone, ça serait donc super que vous tapiez Histoire de succès dans Apple Podcasts et que vous lui mettiez 5 étoiles et un commentaire de préférence sympa sur ce que vous pensez de ce podcast. Un grand, grand merci d'avance. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoireavecunsdesucces.com. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Bérengère et du feu qui crépite.
Bon, on va parler de ta vie.
Michel Drucker est de retour, apparemment.
Depuis tes 3 ans qu'on ne s'est pas parlé.
Ouais.
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. Je le revois. Hein. C'était quoi l'interview qu'on avait fait, l'interview Michel Drucker, c'était 2012?
Ouais, je pense, ouais.
Pouh, vache.
Il y a 3 ans, on a fait une interview avec chez ton coiffeur.
Ah oui, putain, oui. Ça, oui, d'accord. Il y avait déjà spray bilan quand même. Ah, je l'avais oublié celle-là. Oh, ah ouais, ouais. J'avais tellement la vie de ministre là, la meuf a pas le temps, ouais, c'est ça. Bah là, j'ai le temps.
C'est pour ça que t'es là. On va expliquer un petit peu aux gens, mais en fait, t'es chez moi, à Lille.
Ouais, je suis dans l'intimité de Fabrice Florent, devant un feu de cheminée.
Bah ouais.
On est bien, c'est bientôt décembre et tout.
Bérange, je t'ai vendu un feu de cheminée en même temps, donc je suis
ah
pas...
Bah oui, oui.
Je vais remettre une petite bûche, tiens, en passant.
Allez, mets une bûchette.
Pour
le bruit qu'on entende.
Écoutez, ça crépite.
Écoutez.
Ça crépite. On va mettre une petite bûchette afin de passer cette interview au chaud.
En fait, ça s'est complètement dégradé. Ah, écoute.
C'est l'ASMR.
Première interview au Pranzo, genre ambiance festive. Deuxième interview chez le coiffeur. Et là, coin du feu. Ça vieillit à toute allure.
On est en pleine trentaine là.
Ah là, on est waouh. Oh, c'est beau, ça s'embrasse, c'est magnifique.
Ah bah oui, c'est.
Alors je vous écoute, Fabrice.
Bon, Bérengère, là donc la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 3 ans. Tu t'étais en train de terminer ton premier, enfin de
oui,
boucler ton premier spectacle, ouais. En fait que t'as ouais. joué pendant presque 10 piges quand même, c'est déjà
6-7 ans, ouais.
Et en fait, on ne s'est pas reparlé depuis. Enfin, si, on s'est parlé toi et moi, mais on ne s'est
oui,
pas parlé devant un micro depuis.
Voilà.
Et comme j'ai lancé ce podcast, je me suis dit que ça serait marrant qu'on fasse un peu un point. Donc là, tu repars dans une tournée de rodage. Enfin, tu es dans une tournée de rodage
ouais.
de ton deuxième spectacle, donc.
Ouais. Tournée de rodage, donc sur. 2 mois, on a commencé début novembre à Nantes. Là, j'ai fait Nantes, Rouen, Marseille. Là, je suis depuis 2 jours à Lille. qu'est-ce que je peux dire? Bah, c'est un deuxième spectacle. Effectivement, le premier, il a été transformé, il a été joué longtemps et tout. Donc, parfois, j'ai du mal à me dire que c'est que le deuxième, mais c'est vraiment le deuxième.
Il a beaucoup transformé en 6 ouais. ans, il a énormément ouais. évolué, quoi.
Donc voilà, et deuxième spectacle complètement pas complètement différent, mais quand même sur voilà.
C'est complètement différent.
Ouais. Non mais en fait c'est différent, mais c'est intéressant. Moi j'aimerais bien avoir ton avis, mais parce qu'en fait moi je me sens plus proche de moi.
Ah oui.
Donc à la fois c'est différent, mais c'est tellement plus moi que je sens pas que c'est différent. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis pas si sûr que c'était pas toi, mais c'était pour moi
oui,
ton premier spectacle.
Oui, c'était mon mois d'avant. Qui... Voilà. Alors, oui, c'est ça. Oui.
Il ressemblait plus à.
Ouais.
Ça m'a matchait plus avec qui t'étais avant, quoi.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que j'étais quand même un peu. Je pense au stress du spectacle. Là, par exemple, je suis stressée, mais dans une autre mesure, parce que. Quand j'arrivais sur scène, il fallait vraiment que je... Pour moi, c'est vraiment un peu enfiler un masque de clown, quoi. Mmh. Et du coup, j'ai un peu enlevé ce masque de clown. Et du coup, c'est un peu plus libre, quoi. Quand je rentre sur scène, c'est pas... Quand j'étais fatiguée, ça me demandait... Je me dis, allez, je fous mon masque et j'y vais. Donc, j'ai plus cette sensation.
Ouais.
Mais j'étais une fille qui se masquait aussi dans la vie. Aussi. Donc, oui. Tu as quelque chose à dire?
Non, mais voilà, ça se...
Oui, oui.
Comme quoi, ça marchait bien.
Oui, ça marchait pour tout. Donc, c'était effectivement, j'étais la fille masquée. Bon, voilà.
Et donc, les gens qui vont t'écouter, qui sont venus voir ton premier spectacle, vont se dire, mais en fait, c'était pas vraiment elle, donc...
C'était moi, avec un masque. C'était Mardi Gras. Non, oui, non, bien sûr que c'était moi. Si, c'était moi. C'est vrai qu'à la fin du spectacle, j'avais du mal à jouer parce que j'avais...
Tu peux parler dans ton mic.
Ouais. J'avais du mal à rejouer ce spectacle plus j'avançais parce que je m'étais éloignée de ce personnage, effectivement.
Avec les années.
Ouais, ça c'est vrai. C'était difficile à la fin.
C'est peut-être un des trucs compliqués qui fait que quand tu tires un spectacle comme ça pendant longtemps, entre le moment où tu le démarres et le moment où tu le termines, t'as énormément évolué, quoi.
Bah tu bouges, je sais pas, moi en plus j'ai travaillé sur moi, donc ça a été c'est ça le déclic aussi.
On va en parler.
Ouais, j'espère. Mais le travail sur moi fait que c'est un moment où tu peux t'ouvres une porte, ah bah du coup faut ranger quoi. Moi j'ai vraiment le travail sur moi, pour moi c'est tu dis ah j'ai des choses au grenier là, il y a un ah ouais, il y a un grand grenier. Oula. Et puis un jour tu dis bon bah j'ouvre la porte. La porte, elle s'ouvre. Oh putain, il y a du bazar là. Oh, il y en a de partout. Il y a de la poussière et tout. Tu te dis, mais alors d'accord, j'ai mis un pied dans la. Ok. Et là, tu commences à ranger. Et tu dis, ah, mais j'avais ça, je me rappelais pas. Mm. Ah, ça, je jette. Ça, c'est.
Beaucoup de Marie Kondo, hein, d'une manière générale, je pense, dans le travail sur ça.
Ouais, c'est Marie Kondo, ouais. Et à un moment, tu sais, c'est un peu clean. Tu sais où sont les choses et tout. Il y a des petites étiquettes sur les boîtes. Tu te dis, ah attends, bouge pas, je sais où c'est. Et en fait, c'est hyper... Et ça, c'est agréable. C'est le début qui est un peu hardcore, mais après, c'est agréable.
Pour revenir un petit peu à... Donc, depuis 3 ans, t'étais en train, donc, dans cette fameuse... Après cette fameuse interview...
Coiffeur.
Que d'ailleurs, si vous voulez écouter, il est dans les archives de ce podcast. Si vous remontez un petit peu, jusqu'à décembre 2016, je pense. Donc, parce que tu sais, j'ai mis les archives au tout début.
Ah oui, d'accord.
Les vieilles archives de mes vieilles interviews sur Mademoiselle. Voilà. Donc si vous remontez un petit peu, vous pouvez la retrouver en audio avec les bruits du coiffeur autour.
C'est très sympa.
C'est un autre délire que le feu de cheminée.
Ouais.
Là, ça fait 2 ans que t'as pas bougé, que t'as pas fait grand chose.
J'ai pas fait grand chose et j'ai surtout pas joué beaucoup. J'ai fait quelques trucs, mais j'avais pas de date de tournée comme j'avais eu pendant les 5 ans auparavant où j'avais un planning tu vois sur toute l'année le 24 avril bon bah je serai à Bordeaux tu vois donc là j'ai accepté mais c'était avant d'arrêter j'ai affronté cette peur de me dire mais qu'est-ce que je vais faire. Alors après c'est pas toujours facile parce que effectivement bah faut vivre hein, faut gagner de l'argent, faut accepter de vivre. J'ai vécu peut-être plus simplement aussi. Et après, j'ai fait quelques trucs. Enfin,
c'est quoi le déclic qui te dit OK, il est temps d'arrêter à l'époque?
Ah bah, Je sais pas vraiment si c'est un déclic. Bah, c'est surtout que je... vraiment quand je mettais mon...
Ouais. Pour expliquer un peu, il y a des humoristes qui durent beaucoup plus longtemps que 6 ans avec un spectacle. Hein. Alors t'en as qui durent moins, et ouais. T'en as qui durent beaucoup plus, qui peuvent tirer. T'aurais pu encore tirer un peu sur
oui,
la corde.
Oui, bien sûr, oui, oui. Mais je pense que si j'avais pas autant changé, le déclic c'est... au bout de... Ça faisait quoi 4-5 ans, que je jouais. Grosse rupture. Je me souviens jouer... aller jouer sur au Grand Point Virgule, le cœur en miettes, triste, dans la loge, à pleurer dans ma loge avant, et monter sur scène avec ce personnage de fille toujours heureuse et très sympa, et de faire « Coucou, c'est moi !» Alors, à la fois, c'était horrible, et à la fois, ça me faisait du bien. Je me disais oh, « une heure et demie dans la peau de quelqu'un qui va très bien !» C'est pas mal. C'était assez anesthésiant. Mais c'est vraiment à ce moment-là aussi où j'ai pris conscience d'une chose que j'avais pas vue auparavant, parce que j'étais vraiment focus sur mon stress, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mon spectacle, mon truc, très centré sur moi. Et en fait, dans cette phase-là, comme je venais de perdre l'amour, j'avais plus mon cocon quand je rentrais chez moi, j'avais mon mec, etc. Je me retrouvais dans un truc très difficile et douloureux. Et en fait, c'est là où j'ai entendu pour la première fois mon public. Mon public qui me dit « Ah, oh, ça fait du bien de venir vous voir. Ah, oh, j'étais déprimée en arrivant et ça m'a remis la pêche. Oh là là, en fait, je viens de me faire larguer et en fait, ce que tu dis, ça m'a fait du bien. Plus qu'une copine. » Enfin, plein de trucs comme ça que j'ai commencé à entendre, qui était déjà là avant, mais que j'entendais pas. Et en fait, j'ai commencé à tisser aussi ce besoin d'être sur scène. Pourquoi ? Et de l'approfondir, en fait. C'était pas juste parce que quand j'étais petite, j'aimais bien Eli Kaku, en fait. C'était aussi pour ça, mais en fait, c'est comme si je prenais la mesure qu'en montant sur scène, c'est un peu comme si j'étais le délégué de la classe et que pas porte-parole, mais en tout cas, bon bah moi je vais dire tout fort, peut-être que des gens pensent tout bas et ça fait du bien. Et sans me prendre pour une thérapeute ou quoi, mais il y a quelque chose en fait aussi dans mes amitiés. Moi je suis quelqu'un qui adore écouter les histoires des gens, de partager mon expérience, voilà, de et je sens que c'est ça, c'est pour ça que je suis là en fait. Et en fait, enfin, ça a été tout un processus de l'accepter et de me dire ok, je monte sur scène. Ce que je vais dire, va falloir que je le pèse, va falloir que je le dise dans la bonne mesure, parce qu'il s'agit pas de vider mon sac sur ma rupture et voilà m'étaler. Il faut que ce soit intelligemment pensé. Et ça a pris beaucoup de temps.
Quasiment 2 ans. En fait. Ouais. On va reparler un peu du process, mais tu parlais de travail sur toi, ça m'intéresse.
Oui.
Que s'est-il passé dans cette vie à ce moment-là ?
Alors, je dirais que ça a commencé vraiment, le travail sur moi, il a commencé avec la notoriété. J'avais commencé, en fait, j'avais vu un mec, un coach, Bruno Clairin, pour ceux qui ont envie d'aller le voir, il est super. Donc Bruno Clairin, c'était un coach de vie. On allait au café, il n'était pas du tout en mode cabinet. Voilà, il m'a dit, on va pas aller remuer votre passé, on va faire en sorte que les choses aillent mieux aujourd'hui. Et quand la notoriété est arrivée, je lui ai expliqué que je n'arrivais plus rien à faire normalement. Aller marcher, voir des gens, sortir. Enfin, tout était différent. Et il a trouvé les mots juste pour me...
C'était différent comment, tu penses?
En fait, le regard des autres avait complètement changé. Moi, je me baladais comme d'habitude chez Zara avec ma mère. Et puis, il y a quelqu'un qui me regardait un peu avec insistance. Et ma mère me disait, ah, il y a une copine à toi. Non, je ne la connais pas, j'ai très peur. Je rentre chez moi, dans le métro. Du coup, t'es dans un truc où à un moment, je sortais plus. Enfin... Et j'ai compris que c'était parce que ça me déshumanisait, en fait. Moi, j'aime bien être un humain, avant tout. Et que être une image Panini, une photo, ça me plaisait moyen. Donc, j'ai vu ce Bruno Clairin. Après, j'ai pas fait grand chose. Mais à l'époque, déjà, il me disait, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire profondément dans la vie? Et franchement, je savais pas répondre à cette question. Ouais. Il me disait, c'est pas manger du chocolat. C'est, qu'est-ce que vous pouvez faire? 3 fois par jour, qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous fait plaisir? Et il n'y avait rien, moi je jouais, j'étais dans autre chose. Et aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait me dire. Après, j'ai arrêté, j'ai pas fait grand-chose au niveau du développement personnel. Et puis 2014, grosse rupture, là tout s'effondre en fait, tout ce que j'avais bâti s'écroule, ground zéro. Et là, je fais un stage de développement personnel, une semaine en Ardèche,
que
je raconte dans le spectacle.
Dans ton nouveau spectacle.
Donc voilà, je me retrouve face. En fait, je me retrouve face à moi-même. En fait, je crois que toutes les choses que j'ai faites après, c'est regarder à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours attendu la validation du regard de l'autre. C'est vraiment pour moi le chemin de. Je sais pas si ça se schématise bien, tu vois bien si mon explication est bien. D'un coup, tu te dis, je pars de moi, je vais vers l'extérieur, et d'un coup, tu fais, ah non, je vais partir à l'intérieur de moi. Vraiment, c'est quand on dit introspection, c'est pas pour rien. Mais je sais pas, après, c'est vaste mon développement personnel, n'hésite pas à me poser des questions précises.
Mais je
parce que
là,
bon, tu sais tout ce que j'ai fait, mais
t'inquiète
c'est vrai
pas.
Que. Voilà.
Je pense même pas savoir tout ce que t'as fait.
Bah, j'ai beaucoup beaucoup travaillé, mais après ça a été vraiment dans le plaisir. En fait, je crois qu'il y a une connaissance de l'humain qui me voilà.
Qu'est-ce qui te donne envie de faire ce stage de développement perso? Alors tu le racontes un peu dans le spectacle, et je pense que c'est la vraie histoire, même si
ouais.
tu l'as, j'imagine que tu la romances un peu, en tout cas tu
oui on a un petit peu agrémenté, mais l'histoire, c'est vraiment je me sépare, tu vois, de courant de l'hiver. L'été arrive et c'est l'été, bah qu'est-ce que tu fais, quoi, quand t'es célibataire? Moi, j'avais surtout jamais été célibataire. J'avais toujours réussi à être en couple, à avoir quelqu'un, machin.
Toujours réussi.
Ouais, j'avais réussi mon coup, mais c'est vrai. J'étais vraiment toujours avec quelqu'un. Donc
c'était la peur de la solitude, avec le recul.
Ouais. Peur de la solitude, ma mère qui s'inquiète beaucoup, bah, s'inquiète beaucoup moins quand j'ai un petit ami.
Ouais.
Donc, je m'étais bien organisée.
Beaucoup de place pour ta maman dans ce nouveau spectacle également.
Oui. Elle ne l'a pas encore vu. J'espère qu'elle verra un hommage, bien sûr. Oui, j'ai beaucoup parlé de ma mère parce que ça a été aussi... j'ai une mère super qui a été très à l'écoute et tout, mais qui a eu très peur. Et puis qui a projeté un peu ce qu'elle avait peur pour elle-même sur moi. Donc du coup, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui donne beaucoup son avis, et avant même que moi je donne le mien. Et puis souvent, elle avait raison, ma mère, elle avait toujours beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition. Donc j'ai un peu été une feignasse, quoi. Je me suis dit, bon, on va prendre ce qu'elle dit, ça a l'air pas mal. Sauf qu'à un moment donné, ta voix, elle fait « Wouh ! Wouh ! Je voudrais m'exprimer, mais je ne sais pas comment. Parce que tu m'as étouffée depuis pas mal d'années maintenant. » Donc le stage, en fait, c'est l'été arrive et je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire de l'été? Comment je vais partir en vacances? Avec qui? Comment? Et ma copine Lisa me propose un stage. Voilà, elle me dit, ouais, elle avait fait un stage avec ce mec quelques temps avant, qui avait l'air super. Mais moi, je me sentais pas concernée. C'était un stage au-delà de l'ego. Je me disais, ouais, non, mais moi, ça va, je suis OK avec mon ego et tout. Foutaise. Et là, c'est un autre stage qui s'appelle du petit amour au grand amour. Et donc, elle me dit, écoute, c'est une semaine et tout. Je me dis, bon, écoute, quitte à partir, au moins, ça me fait une semaine de prévu. Je connais pas et tout. Mais je pars, mais moi, je pars dans un truc pas du tout ce que c'était, quoi.
Oui. Tu partais un peu en camp de vacances, quoi.
Ouais, on va être au vert. Je suis avec ma copine Lisa. J'avais un couple d'amis aussi qui faisait le stage.
Ouais.
Donc voilà, je pars. Mais au final, que tu pars toute seule ou avec des amis, c'est pareil, hein.
Ah ouais, tu penses? Moi, je suis parti tout seul. Et j'ai, dans ce truc-là, enfin, dans le stage que j'ai fait, il y avait des gens qui étaient notamment en couple ou qui étaient venus entre amis. Et de ce fait-là, quand t'es tout seul, tu vas vers les autres, ce que tu ferais pas forcément naturellement, quoi.
Ouais, ouais. Oui, il y avait un peu de ça, mais on a été tous très, très indépendants. Enfin, okay. On s'est quand même vraiment, livré avec les autres et tout. Okay. Il y avait quand même une rencontre. Et je me rappelle que quand chacun partageait, je regardais mon ami que je connais depuis longtemps se livrer comme jamais je l'avais entendu. Okay, donc il y a quand même aussi une découverte de l'autre, où souvent les gens ont peur parce qu'ils se connaissent, de se dire, est-ce que ça va être bizarre si on fait ce stage ensemble? Et je dis, ben non, parce que ça te lie d'une manière qui est complètement différente. Donc je pars, et puis en plus Lisa, elle veut pas dormir avec moi parce que je ronfle. Donc du coup, je suis obligée d'être dans une chambre avec des gens que je connais pas. Enfin, tu vois, donc on n'était pas du tout collées, très indépendantes. Les premiers jours, c'est assez... Moi, j'aime bien, je suis dans la nature, donc je crois que ça me fait beaucoup de bien. Mais après, c'est assez cool. Puis je me dis, ouais, moi, j'ai du recul sur moi-même, c'est cool et tout. Et puis au bout de... Il y a toujours un moment dans le stage, soit c'est tout de suite, soit c'est au bout de 2-3 jours, mais il y a un moment où ça y est, tu plonges. T'as mis le doigt sur ton problème, entre guillemets, ou en tout cas sur le travail que tu vas faire sur toi. Et moi, je crois que c'est vraiment ça, ce stage, c'était vraiment de me dire, mais ma relation à moi, elle est quand même déplorable, quoi. Je suis vraiment pas cool avec moi, en fait. Ça, ça a été la conclusion du stage qui a été hyper intense et que j'ai adoré. Bah, j'ai adoré. Et après, j'ai fait plein de stages. Ce mec, il a 6 stages qui sont comme une formation, en fait. Et qui sont à chaque fois... Je crois que c'est le plaisir de... Ce que j'aime à chaque fois, c'est que tu rencontres les gens comme jamais tu les rencontres dans la vraie vie, en fait. Mmh. C'est-à-dire, alors quand on dit la vraie vie, ils rigolent parce que c'est toujours la vraie vie, mais mais tu vois, je sais pas comment dire.
Il y a une ambiance.
Mais c'est des gens à qui peut-être tu parlerais pas par rapport aux préjugés et tout. Puis d'un coup, tu vas... En fait, ça parle beaucoup de vulnérabilité, mais dans le bon sens, la vulnérabilité, pour moi, c'est quelque chose de précieux, de... On a l'impression que c'est être faible. Mais en fait, c'est baisser, c'est lâcher le masque, en fait. C'est-à-dire, sous le masque, en fait, bon, il y a une fille sympa, certes, mais qui est un peu triste, oui, parce que bon, bah, en fait, elle a des trucs qui, voilà, je viens de rompre, c'était difficile et tout. Et juste d'accepter de le dire, bah, ça te soulage et ça soulage les autres parce qu'ils se disent, ah oui, c'est ça qu'on voit, en fait.
Et c'était, pour revenir à ton aspect de notoriété, c'était pas dur pour toi, parce que j'imagine que tu te retrouves avec des gens qui.
Ouais. Oui, oui, mais alors je n'y ai pas pensé.
Peut-être te connaissais d'ailleurs, non ?
Oui, il y en a certains qui me connaissaient. Mais alors, pareil, c'est-à-dire que à chaque fois que j'arrive dans un stage, je me dis ah oui, il y a ça en fait. Mais c'est le jour J en fait. Parce que moi, je suis Bérangère, je fais un stage en tant qu'humain en fait.
Ouais, parce que tu viens parler de ta vie privée et tout, enfin tu vois.
Ouais, mais je sais pas. Mais après, je le dis dans le spectacle, mais il y a vraiment cette règle de confidentialité. Il le dit, tu vois, après, bon. Mais. Au final, lâcher ça aussi, de se dire que bah, les gens vont raconter un truc sur toi, bah, c'est là où tu lâches, en fait. Si tu commences à te dire oui, alors en fait, ça, c'est incontrôlable, en fait. C'est-à-dire que quand t'es connu, il y a toujours des gens qui vont parler de toi. Et c'est difficile, hein. Parfois, je sens que j'ai pas envie qu'on vienne dans mon intimité, puis parfois, je me dis, bon, bah, oui, bah, et peut-être, tu vois, quand je pars en vacances avec mes parents en Espagne, avec mon frère, ma belle-sœur et mes nièces, que je mange un sandwich pambagna sur la plage, confectionné par ma mère le matin même, que j'ai un bout d'œuf dur dans la bouche et qu'il y a quelqu'un qui me fait « Excusez-moi, vous avez fait les Marrakech du rire, non ?» Oui, c'est tout à fait moi. Donc voilà, bon, bah faut lâcher, hein, qu'est-ce que tu veux. Je sais pas... Ouais, faut lâcher l'image. Donc j'ai pas eu ce truc-là du tout de me dire « Ah, c'est vraiment en arrivant... » Alors, en arrivant, il y a peut-être une ou deux personnes, mais alors ça a été très light. Les gens avaient vraiment été très... Voilà, ça s'était un peu délié à la fin. Et après, quand je suis... Donc, tu restes une semaine dans ce gîte. Et quand je suis ressortie, que je suis repartie à la gare, qu'on m'a re-reconnue, j'avais oublié ma notoriété, quoi. Je me suis dit, ah oui, il y a ça aussi. Donc, voilà.
Tu sors de là, de ce stage, donc. Tu dis que tu t'aimais pas trop, t'étais dur avec toi-même, c'est ça ?
Ouais.
Ça se concrétisait comment ?
Oh bah, déjà en choisissant des relations difficiles. J'ai eu, depuis mon premier petit ami, hein, j'ai alterné. En fait, mon schéma, c'était ce qu'on appelle un manipulateur pervers ou quelqu'un qui avait une emprise un peu sur moi, avec tout mon consentement, évidemment. Et après, quelqu'un de gentil sur lequel, moi, j'avais peut-être un pouvoir aussi. Donc j'ai alterné ces relations-là, mais il y a quand même de la douleur et en fait quand tu veux, enfin c'est assez, j'essaye d'être synthétique sur tout ce que j'ai appris en 5 ans, mais je crois que c'est tout un chemin parce que je suis née dans une famille où il y a beaucoup de monde. Ma mère elle a une sœur jumelle, mes parents sont fusionnels. En fait être seule c'est un peu triste, c'est un peu Quand j'étais enfant, que j'avais pas encore mon petit frère, ma mère, elle me regardait un peu genre, oh la pauvre, elle est toute seule, elle a pas de frère. Tu vois ? Alors que moi, ça allait.
T'avais rien demandé à personne, j'imagine.
Voilà. Donc, moi, je partais en vacances, on était 15. J'avais jamais de temps à moi, en fait. J'avais jamais de temps calme. Et j'en demandais pas parce qu'en fait, c'était bizarre. Enfin.
Et t'en avais peut-être même. Enfin, t'en ressentais peut-être même.
Si. Si en fait, maintenant, je sais.
Avec le recul.
Ouais. Et j'ai fait un stage où la thérapeute m'a dit « T'es une introvertie contrariée. » Et ça a changé ma life. Elle me dit, en fait, t'as besoin d'être seule et tu l'as pas été. Et aujourd'hui, du coup, depuis ça, j'ai complètement... je sais que maintenant, il faut que j'ai des moments toute seule, des moments de calme, des moments où je me calme, parce que j'ai l'impression que quand je suis avec des gens, bah, j'imbibe tout. En fait, je regarde tout, je vois tout, je ressens tout. Mais même inconsciemment, donc quand je rentre chez moi, ce que j'appelle le bol plein, c'est-à-dire que je suis à ras-bord. Et donc, quand j'étais petite, je me souviens que des fois, je pleurais. J'étais en colère et ma mère me dit « Ah, mais tu nous fais chier, là il y a tout le monde, c'est sympa. » Et je me disais « Ouais, c'est vrai, on est en vacances, c'est pas cool quoi. » Et du coup, j'étais pas sympa avec moi parce que je me donnais pas de crédit à ce niveau-là. Donc, quand tu passes ta vie à pas te donner de crédit, bah tu te donnes pas crédit avec un mec parce que c'est toujours lui qui a raison et toi t'es une merde avec tes copines. Écouter l'intérieur, c'est difficile quoi. Donc là, je remanie tout depuis le début. Donc du coup, des fois, je me dis, je pense vraiment ça. Là, j'ai vraiment envie d'être toute seule et de pas du tout aller à ce dîner. Mais mes amis vont être, ils vont penser quoi si je suis pas sympa. Et puis à un moment, tu te dis, mais non, en fait, si je suis dans mon équipe, vraiment, je n'y vais pas parce que je vois très bien la sensation dans laquelle je vais être. Je vais être mal, je vais pas arriver à parler aux gens. Et en fait, les gens vont se dire, bah, elle est pas sympa. Donc c'est pire. Donc j'affronte le fait de dire, bon bah, je ne viendrai pas, désolé. Donc, enfin, c'est des petits exemples comme ça, mais c'est là. En fait, c'est tout le processus d'apprendre à être dans ton équipe avant d'être dans l'équipe des autres, quoi.
Quand t'as pas été élevé là-dedans, c'est compliqué. Hein.
Ah bah moi, quand je suis partie toute seule en Australie, ma famille se sont dit mais ça va pas du tout, Bérangère.
Alors c'est la première fois, pour expliquer un peu, c'est la première fois que tu pars en vacances toute seule quand tu décides de partir en Australie.
En Australie, c'est la première fois que je pars un mois toute seule aussi loin. J'avais fait des petits stages, mais j'avais fait des trucs un peu sécures. Je suis partie 3 jours à Londres, j'avais fait un petit week-end quand j'étais à Montréal au festival Juste pour Rire. J'avais pris une bagnole et j'étais partie trop... Mais pareil, je suis avec tous les copains de Juste pour Rire. Et je me dis, mais le projet de partir toute seule dans un hôtel à côté d'un lac, pourquoi ? Alors que tout le monde est là-bas. Et vraiment, je me suis dit, mais je suis complètement tarée. Mais non, en fait. Franchement, j'ai un souvenir génial de ce moment-là. Et voilà, et aujourd'hui, pour moi, c'est... Alors, il y a des gens, c'est vraiment le débat. Ah, mais moi, je ne pourrais pas. Ah, mais moi, si je vais au cinéma, il faut qu'il y ait quelqu'un avec qui partager. Bon, mais moi, j'imagine que c'est vrai, hein, qu'il y a des gens, c'est pas leur kiff. Moi, j'ai un vrai plaisir et une liberté aussi de me dire, bah, je suis capable d'aller manger toute seule dans un restaurant. Si mon mec n'est pas dispo ou personne n'est dispo, bah, je peux quand même voyager. Si j'ai envie de voir un film et qu'il n'y a personne et que je me prends un coup de jus, bah, j'ai pas besoin d'attendre la semaine d'après que l'autre soit dispo. C'est une liberté pour moi.
Et tu crois pas que t'étais cette personne-là avant qui disait « Moi, je peux pas aller au cinéma toute seule ou partir en vacances toute seule, non ?» Avant de le tester, avant d'expérimenter.
Je sais même pas ce que je pensais de ça. Parce que assez rapidement, quand je fais des trucs seuls, je vois bien que c'est pas... L'Australie, si tu veux, c'est
Donc ouais, tu pars en road trip en Australie pendant un mois.
Je sais même pas, je pars, mais c'est.
Tu pars sans trop savoir pourquoi ni comment, pas... juste tu pars.
Mais d'ailleurs, pendant 10 jours, je sais pas pourquoi je suis là. Je fais la bonne touriste, c'est-à-dire que j'ai demandé à tout le monde des tips. J'ai une liste de qui n'en finit plus de trucs qu'il faut faire, et donc je suis en stress de me dire alors attends, qu'est-ce que je dois faire, pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc pendant 10 jours, en fait, c'est chaotique parce qu'il y a rien qui est fait avec le cœur, et après. Bah, j'ai les 20 jours d'après, j'ai pas fait grand chose de fou. En fait, j'ai juste vécu des moments joyeux où je me dis oh, ah bah, je suis bien là. C'est l'endroit où je voulais être. Mais il se passe rien en fait, j'ai rien fait de spécial. J'ai fait une excursion avec tout le monde qui prend la même photo et tout, insupportable. J'ai dit bon, bah, ça c'est non en fait. Mais pour moi, hein, après, il y a des gens que ça rend très heureux.
Hein,
mais en fait, tous les trucs où je me suis un peu perdue, où c'était pas prévu, une boutique où je découvre une boutique, où je sais pas, je me dis, ah, tiens, là, je connais pas, j'y vais. Ben, c'était mieux, vraiment. Les rencontres, les gens que j'ai rencontrés et tout. Mais c'était la première expérience de solitaire, quoi, comme ça.
Ça t'a apporté quoi ?
Ouais, ça a tout changé. Ça a tout changé. Mais... En fait, c'était mon stage juste avant de... Il y avait eu « Tu es une introvertie contrariée ». Il y a eu ça, le voyage. Et quand je suis rentrée, j'ai compris plein de choses. Alors, j'ai compris un truc, c'est que quand je suis rentrée, j'avais plein de connaissances, plein d'amis, plein de trucs. Donc, tout le monde avait vécu mon voyage parce que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, je disais, bah, j'ai peur, je pars, machin. Donc, tout le monde a... vécu le truc, tu vois. Et quand je suis rentrée, tout le monde me disait « Ah, on se voit pour que tu me racontes ton voyage !» Mais j'avais genre, je sais pas moi, 18 personnes qui me demandaient. Et là, je me suis dit « Mais attends, est-ce que je vais bouffer tous les jours avec une personne différente pour raconter ce que j'ai vécu ?» Ou je garde tout ça en moi et je le raconte dans mon spectacle. Et si tu veux avoir de mes nouvelles, tu vas voir mon spectacle, tu vois. Parce qu'à un moment, je me suis dit « Je peux pas, en fait. » Mais je me suis dit « Ah, ok, en fait... ce que j'ai à faire aussi, c'est raconter mon expérience. Mmh. En fait, je suis une exploratrice, quoi. Je reviens d'un voyage et je raconte mon expérience. Mais sans juger, sans dire il faut faire ça. Je vais pas dire à tout le monde, partez en Australie, c'est vraiment génial. Mmh. Non, c'est part à l'aventure, mais...
Non, l'Australie est quand même le pays le plus dangereux du monde. Après, il faut savoir hein, si vous aimez pas les bêtes. D'une manière.
Alors oui, bah écoute, moi j'ai vu zéro bête. C'était ouf.
Waouh.
Franchement, j'ai pas eu ça. Et par contre, c'est très safe pour le harcèlement de rue, oui, et tout et tout. Ça, c'était vraiment génial. Mmh. Je veux dire que tu peux te balader en string à paillettes et personne te fait chier. Et alors c'était drôle parce qu'il y a juste un mec une fois qui m'a dit, il m'a dit you're gorgeous. Et j'ai pas bien entendu. Tu sais, j'ai dit pardon. Et il a posé le répéter. C'est j'ai entendu après. Et il m'a dit il a vraiment pas assumé son harcèlement de rue. C'était vraiment mignon. C'était trop drôle. Mais vraiment sécurité super safe l'Australie. D'ailleurs c'est pour ça que je suis un peu partie là-bas. Je pense que je rigole parce que quand j'ai commencé à écrire le sketch sur le, enfin le texte sur l'Australie, parce que je raconte ce voyage aussi, je me suis rendu compte que déjà il y a des meufs qui ont fait des trucs mille fois plus roots que moi. Et moi c'était vraiment mignon. Mais de là où je pars avec ma mère qui a peur de tout, c'était le max que je pouvais faire. Mais c'est chacun sa jungle en fait. C'est à un moment donné, qu'est-ce qui te fait peur à toi et qu'est-ce que tu vas traverser en fait. C'est pas de dire il faut partir en voyage tout seul. C'est, pff, ça c'est pas vrai. Voilà.
Oui, puis si t'as peur de partir en vacances en couple, c'est aussi, ça peut être aussi une aventure si tu l'as jamais fait de ta vie. Ouais, quoi, ouais. Tu vois.
Oui, oui, c'est ton aventure à voilà. Toi. Qu'est-ce qui te fait flipper et qu'est-ce que tu vas traverser, quoi.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
C'est quoi le process entre le moment où tu reviens d'Australie donc et bah le pro parce que c'était quand c'était il y a
c'était ça va faire deux ans en janvier
deux ans
là.
C'est ça
ouais
entre temps tu joues quand même dans quelques films non je me trompe pas
que j'ai fait le film de Marie-Lou quand on crie au loup
ouais
j'ai fait après j'ai joué dans un j'avais un petit rôle
tu
dans
joues
le...
l'instit
ah l'école est finie
l'école est finie
mais c'était quand ça non l'école est finie je le tourne avant de partir en Australie
ah ok d'accord
il sort juste l'année où okay. Je suis partie. Non, j'ai tourné l'année juste avant. Okay. Ouais. Pourquoi ?
Bah, en fait, je me demandais comment tu faisais pour comment dire pour gérer cette transition en fait entre tes deux spectacles où en fait t'as rien qui est ton métier de base qui est monter sur scène et où tu remplis entre guillemets un peu ta vie avec des rôles.
Ouais. Mais j'ai vraiment pas beaucoup travaillé, hein, vraiment, ouais. J'ai affronté ça. En fait, ça me faisait plus peur avant que quand je l'ai vécu, c'est-à-dire que je me disais, ah là là, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Et puis quand j'y étais, en fait, je crois que j'avais vraiment besoin de travailler sur c'est quoi ma vie, en fait. Où est-ce que j'ai envie de vivre qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait, en tant qu'humain. Sans mon travail, en fait. Ça, c'était dur. Hein. Ah. Parce que quand tu t'identifies vachement à ton boulot, c'est des métiers de passion, t'es là, tu donnes tout, t'as pas de week-end, tu pars pas en vacances, t'es machin. Et d'un coup, tu t'offres une plage horaire hyper grande où tu te dis, bah, en fait, je peux tout faire. Donc, je me suis mise au surf, j'ai commencé à aller à Biarritz hyper souvent, à me rendre compte qu'en fait, quand j'étais à Biarritz, mon humain se sentait très bien.
Pourquoi t'es allée là-bas ?
Alors, je suis partie pour le jour de l'an avec des copains, avec mon coiffeur et sa bande de potes. Et en fait, j'ai adoré. Et je me souviens, donc, le 1er janvier, je me lève devant l'océan. J'adore. Et puis après, je reviens l'été avec eux. On fait du surf. trop cool et tout. Je sais pas. Eux, ils partent et je dis, bon, en fait, je vais rester. J'ai une copine qui me rejoint et tout. Je peux pas te dire, c'est l'endroit où je me sens bien. C'est une vie qui me convient, c'est sportif. L'océan, les terres, la nature est hyper présente. On fait en fonction de la météo. C'est-à-dire qu'un jour, tu te dis, bon, on va marcher. Bah non, pas du tout, parce qu'il pleut en diagonale, donc on marchera demain. Donc il y a l'instant présent qui est là aussi. Je sais pas, j'y vais un peu instinctivement, quoi. Et puis, au fur et à mesure, je me dis, bon, à force d'y aller... Et donc, je me suis pris un appart et je me suis dit, je vais écrire à Biarritz. Je vais écrire ce spectacle à Biarritz. Donc, j'ai pris un appart en location, saisonnière, donc sur une durée déterminée. Et j'ai commencé à y aller. Et c'était marrant parce que j'osais pas quitter Paris pour y aller. En fait, j'avais rien, mais je me disais, je culpabilisais. C'est comme si je partais en vacances, alors que non, je partais travailler, mais dans un lieu sympa. Et en fait, et d'ailleurs, quand je dis aux gens que je suis à Biarritz, ils me disent « Ah, je suis désolée, je te dérange, t'es en vacances. » Non, mais ok. Et en fait, il y a comme un truc, quand tu quittes Paris, t'es vraiment la feignasse de base, t'es en train de te la couler douce à un autre endroit. Alors que non, j'ai taffé de ouf, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Sauf que bon, bah, quand j'arrêtais de travailler, oui, je pouvais marcher au bord de l'océan. Ça, c'était la récompense, mais j'ai travaillé, quoi. Donc après, j'ai un peu changé ma vie parce que... Sans dire que je quitte Paris, parce que je peux pas quitter Paris, je vais y jouer à la rentrée 4 fois par semaine. Mais par contre, j'ai besoin d'alterner, quoi. J'ai besoin vraiment de calme. Et l'introverti contrarié, ben, Paris, c'est trop. Ça vibre trop, c'est trop fort. Donc il faut que j'ai des pauses, des temps calmes, comme les enfants, là, on fait un temps calme. Donc je me fais mes temps calmes à Biarritz.
Et là-bas, t'écris ?
Et là-bas, j'écris...
T'écris ton spectacle actuel,
ouais.
Donc.
Ouais, j'écris mon spectacle...
T'écris toute seule pour expliquer un petit peu aux gens.
Bah pour toute la vérité. En fait,
toute
la vérité. Je vais essayer de faire bref, mais premier spectacle. Le processus, c'est ok. Ça fait des années que je dis que je veux faire un one man show. Ça fait 4 ans que je suis à Paris. Ok, c'est maintenant. J'y vais. Je bosse dans un café théâtre, le café théâtre Le Bout. Je demande une date au directeur. Il me donne une date 6 mois après, on est en janvier, il me donne une date en juin, 24 juin 2009, je jouerai mon spectacle, je le fais. C'est un rendez-vous comme un saut en parachute. Pour ça, je me dis, bon ok, alors j'ai 3 idées dans un carnet, comment je vais faire, j'ai jamais rien écrit, comment ça se passe? Je vais voir mes amis humoristes, Christine Béroux, Arsène, tout ça, je vais voir tous ces gens qui me donnent des textes. Mais d'eux-mêmes, tu vois, ils me donnent des conseils, mais en même temps, ils me donnent des textes. À l'époque, mon ami Yoann Chabot me mettait en scène. On avait prévu ça. Donc, on part en résidence une semaine. On a 15 textes, 3-4 à moi, tu vois, 2-3 idées, machin. On mélange ça, peau pourrie. Je joue le 24 juin 2009. Moi, j'ai fait mon saut en parachute. Ça y est, on n'en parle plus, c'est terminé. Le directeur du Café Théâtre, Alexandre, me dit « Tu veux rejouer 3 dates en juillet ? Tu veux rejouer en août ?» Oh, et moi, ça m'avait demandé un tel stress. Je me disais « Mais non. » Et je disais oui à chaque fois. Et je rencontre...
Mais donc attends, la première fois que t'as joué, t'avais prévu de jouer qu'une fois?
J'avais pas prévu de jouer qu'une fois, mais j'avais en tout cas pas pensé à jouer après, en fait.
Ok.
J'avais pas de visée, en fait, avec ce spectacle. Souvent, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne me suis pas dit, tiens, ce sera mon métier et c'est grâce à ça que je vais vivre. Je trouve qu'il y a, il y a une part d'artiste, tu fais ton truc et après, tu verras. Mais donc voilà, moi, j'avais vraiment lâché l'affaire. C'était vraiment... Puis ça m'a tellement, j'avais perdu du poids, c'était pour dire, moi qui suis une boulotte, j'avais vraiment perdu du poids avant ce spectacle, bref. Donc voilà, je rejoue et je rencontre Grégoire Day, auteur, qui va reprendre toute l'écriture du spectacle à base de discussions au café, lui il écrit, mais moi je ne suis jamais en train de lui dire, tiens, ce serait intéressant de penser à ça ou ça, bon ça tu sais.
Les gens savent pas forcément, mais
t'as
travaillé pendant très longtemps avec Grégoire.
Et Grégoire, on a une super équipe. Grégoire, il écrit beaucoup. Moi, j'apprends vite. On bosse. On enlève, on remet, on enlève, on remet. Mais je suis un petit peu spectatrice, quoi. C'est-à-dire que, voilà, le harcèlement de rue, oui, j'en ai parlé à Greg, mais je me suis pas dit, tiens, ce serait intéressant de le mettre dans le spectacle. Donc, je fais ça pendant 5-6 ans. J'arrête de jouer. Et je me dis bon, j'ai envie de parler de mon expérience de vie et de parler de choses plus personnelles. Je commence à travailler avec Navo, qu'on connaît bien.
Navo, donc qui est le
co-auteur de Bref,
co-auteur de Bref et de Kian
Kojandi. Et puis on écrit des textes et tout. Et bon, on connaît le génie de Navo. Et c'est brillant. Sauf que je suis encore à côté de moi parce que, en fait, je lui donne tout pouvoir et je dis, bon, bah lui, de toute façon, il est plus intelligent que moi. Il est plus fort que moi. Il écrit mieux. Donc, j'oublie de mes idées. Et il me dit, ce bon conseil, il me dit, prends ton temps, en fait. Prends ton temps, ne te précipite pas et mûris tes choses. Donc, je prends mon temps. Mais j'ai quand même ce réflexe-là de me dire, moi, je suis pas vraiment auteur, en fait. Et j'ai ma meilleure amie, qui me connaît très bien et tout, qui écrit très bien, et avec qui on commence à réfléchir au spectacle. En fait, je lui donne une idée que j'ai eue, et elle rebondit dessus, et ça donne une idée encore mieux, tu vois. Ça enrobe les choses, et on se dit, ok, collaborons ensemble. Et comment vous expliquer ? On va donc décider ensemble, elle va regarder tous mes textes, elle fait vraiment gros travail d'archivage, de se dire machin, on commence à mettre en place des choses, mais je lui demande beaucoup à ce moment-là de réflexion. Elle réfléchit, elle passe tout l'été, alors que moi je venais de tourner, j'étais très fatiguée, j'étais pas là encore, et elle écrit tout le spectacle avec les idées qu'on a eues et tout, elle me rend 25 pages carrées, nickel, etc. Et elle anticipe en fait que moi, elle voit bien que je suis aux fraises et elle se dit mais il faut y aller là en fait. Et donc elle me materne en fait. Et en fait moi
ça te stresse.
Ça me stresse. Mmh. Mais j'arrive pas à dire en fait. J'arrive pas à dire non en fait il va falloir que je fasse moi-même en fait. Mmh. Et j'arrive pas à le dire. On est enclenché dans le truc. Donc je dis pas. Je me victimise. Et à un moment, j'ai peur de ce qu'elle va penser et je sens qu'il faut que je parte à Biarritz, que je me rassemble et que je revienne vers elle avec d'autres choses. Sauf que j'ai été très maladroite. Par peur de la blesser, j'ai fait encore pire. Je lui envoie un mail en lui disant très maladroitement que je vais repartir avec mes idées, que voilà, j'ai besoin de temps, etc. Et on a une relation où c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé. Et je lui dis maladroitement, je vais arrêter d'essayer de te sauver parce que quelque part aussi dans cette collaboration, je m'étais mise dans un rôle de quelqu'un qui va aider. C'était en plus le bonus, c'était que on avait toutes gagné de notre vie, on avait toutes voilà, et ça rangeait tout dans les bonnes cases. Mais j'ai mis ma cape de super-héros et c'était pas chouette. Et j'avais du mal à être honnête avec ça. Aujourd'hui, j'arrive à le dire, mais c'est difficile pour moi de l'accepter. Et surtout qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué cette relation parce que ça a tout détruit. Je pense qu'on aurait des choses à se dire, mais que voilà, chacune a son endroit et est en colère. Et c'est assez triste en fait. Mais voilà, je sais que elle m'a aidée à mettre en place les choses au départ. Elle est vraiment au cœur du démarrage de tous ces textes que j'ai. Et après, je suis repartie à zéro, en fait. Ça, je sais pas si elle le sait pas vraiment, mais je suis repartie à zéro. Je suis repartie avec des idées. Peut-être la structure qu'elle m'avait inspirée, mais qui a quand même aussi bougé après. Et là, je repars avec mon ami Nicolas Vital. Donc, Nico, c'est mon pote depuis la fac. On se connaît. Alors, lui, il a connu toutes mes histoires. T'imagines, depuis le lycée, il a connu toutes mes histoires d'amour, les machins, les trucs et tout. Et il va m'aider à accoucher de moi. C'est-à-dire, il me laisse il me mâche pas le boulot. Mais en tout cas, il me fait mettre des mots sur les choses. Il m'aiguille dans le sens où des fois, tu veux parler d'un truc personnel, il me dit, là, on est vraiment dans tes entrailles et on n'a pas envie d'y être. Et c'est difficile, ça. Mm-hmm. Tu sais, je me disais, mais non, il faut vraiment que les gens sachent. Il faut. Et j'avais besoin d'être entendue. Et peut-être parfois, dans un truc où je laissais pas le chemin aux spectateurs de se dire, ah, ça me fait écho à ça. Donc, on a vraiment travaillé sur ça dans le dur du texte pendant presque un an. On a fait des sessions chez My Little Paris où on a réuni 20 personnes et je racontais ce que j'allais faire dans le spectacle, donc c'était hyper inspirant et du coup c'était vraiment dans un truc hyper à nu quoi, donc ça nous a beaucoup aidé. Et puis on a rebrassé la matière à chaque fois qu'on se revoyait, on se disait mais non, mais ça pas du tout, ça on l'enlève, ça on machin nanana. Et puis récemment on a appelé Grégoire Day. Et voilà, et donc on trouve une autre formule pour bosser avec. Enfin, je trouve une autre formule pour bosser avec Grégoire. C'est-à-dire que cette fois, j'apporte de l'eau au moulin Et Grégoire pimpe avec toute sa grande capacité de blaguiste. Et donc on trouve, et en fait aujourd'hui on écrit ensemble. Là tu vois, on a retravaillé sur le spectacle et c'est intéressant parce qu'on est ensemble. Alors qu'avant il était tout seul chez lui, je recevais un texte et je l'apprenais. Donc c'est un processus qui est complètement différent.
Et ce qui est marrant, c'est que Grégoire me disait aussi que de ce fait-là, lui, ça l'apprenait aussi parce que t'as des longs moments où tu parles et il n'y a pas de blague.
Ouais.
C'est juste que tu racontes ton histoire. Quoi.
Ouais.
Et Grégoire me disait, wow, moi aussi j'ai appris beaucoup parce que de ce fait-là, au départ, je me disais, putain, mais il n'y a pas assez de blagues, il faut que les gens rient et tout. Et il me disait, ce qui est cool, c'est que Bérangère, elle m'a amené ça dernièrement.
Oui, mais j'ai vu, en plus, on se connaît bien avec Grégoire, il y a beaucoup de pudeur entre nous, parce que c'est... Alors, on est un peu comme un frère et une sœur, tu sais, on se dit pas les choses et tout, on est des bonhommes. Et en fait, j'ai vu, je sais que le soir de la première, et Nico aussi, ils m'ont vraiment fait confiance. Ils se sont dit, bon, pour nous, juste parler comme ça, ça va pas le faire, en fait, tu vois, c'est peut-être faible ou... Et ils m'ont laissé faire. J'ai vraiment vu les deux qui se disent, bon, on lui fait confiance et on y va. Et en fait, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que Greg, je sais, dès qu'il y a un spectacle où il n'y a pas de blague, il me dit, eh non, il n'y a pas de blague, c'est nul. Et donc, je savais que ce qu'il pouvait penser. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il se dit, ah oui, ok, j'apprends de ça. Et je me dis, effectivement, en fait, c'est la sincérité. Je me lance pas des fleurs en me disant ça, mais le fait d'avoir travaillé sur moi, je pense que j'ai une posture assez juste de ce que je vis au moment où je le vis. Et ça a été tout le travail avec Nicolas, parce que des fois, j'étais décalée. Des fois, je voulais dire des choses parce que j'étais en colère, parce que je revendiquais un truc. Mais quand tu partageais juste ton histoire, juste pour partager l'histoire, ça, c'est difficile.
Pourquoi ?
Bah, parce que t'as toujours un truc du regard de l'autre. Tu dis... affirmer que t'es, tu vois, dire je raconte ma rupture, je suis au fond du gouffre. Bon, bah si t'es pas ok avec ça au fond de toi, ça fait genre ouais, bon bah voilà, un côté un peu ouais, donc j'étais dans la merde. Et ça, tu peux pas le prendre en otage, les gens, pour qu'ils écoutent ça. Enfin, moi c'est ce que je pense. Donc faut régler tes histoires, et moi j'ai mis du temps, hein, il a fallu régler tout ça. J'étais en colère contre mon ex, très en colère. Je pouvais pas le croiser. Un jour, je l'ai croisé dans mon quartier. Je me suis cachée sur le trottoir d'en face, pour te dire.
Tu t'es cachée.
J'ai traversé en me disant, tiens, je suis cachée. Il m'a vue. Enfin, c'était vraiment ridicule. J'étais en colère contre lui. Je lui en voulais de tout. Et tu vois, par exemple, j'en parle pas dans le spectacle parce que c'est pas le lieu, mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps que... On parle beaucoup de pardonner aux autres. Qu'est-ce que c'est le pardon, tu vois ? Et qu'au final, le jour où je lui ai pardonné, j'ai vraiment fait vraiment... Genre, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, c'est OK. C'est OK pour moi maintenant. Parce qu'en fait, je me suis libérée de cette énorme valise de fumier et de colère que je me trimballais. C'est, t'as une samsonite de 10 kilos derrière toi que t'emmènes partout où tu vas. À un moment, tu dis non, mais je vais peut-être la laisser sur le bord de la route. Mais c'est toi que tu pardonnes, en fait. C'est toi que tu libères. Et vraiment, l'acte de pardonner à l'autre, il n'est pas en fonction de l'autre. Et l'autre va rien faire pour que tu. Moi, il a rien fait pour que je lui pardonne. Mais finalement, quelques temps après ce pardon, il s'est excusé. J'ai eu les excuses que je voulais avoir. Bon, qui, du coup, ça m'a fait plaisir, mais je ne vivais pas à me dire, ma vie, c'est quand il m'aura fait des excuses, je pourrais revivre, quoi. C'est horrible de vivre comme ça. Et on vit comme ça avec les ex, les trucs. Je vois toute la colère des femmes contre le mec qui t'a fait ça, mais tu t'en veux, toi, d'être resté, toi, d'y avoir cru, toi, de pas t'être écouté parce que toute ton intuition t'avait dit que là, c'était bizarre, là, c'est chelou et là, c'est pas cool. Et moi, je m'en voulais parce que tout était écrit, en fait. Tu sais, t'as un filtre Instagram que tu mets sur l'histoire, mais en dessous, il y a tout. Il y a toute la réalité, en fait. Donc voilà, bon, c'était ma parenthèse de Gandhi. Mais non, mais ça m'a fait... Je partage parce que ça m'a fait tellement de bien. Je peux pas expliquer comment. Puis aujourd'hui, on a une relation amicale qui est super parce qu'en fait, bah oui, on s'entendait bien aussi. Il y a pas tout à jeter, quoi. Donc voilà, donc c'est un chouette moment de pouvoir pardonner à l'autre, mais ça demande de travailler sur soi, ça demande de faire la paix et de ranger son grenier.
Et donc t'as la sensation aujourd'hui quand tu montes sur scène là, enfin moi je t'ai vu avant-hier, que t'es toi-même.
Bah, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis pas en colère.
Oui, ça c'est sûr. Non, ça sent pas la meuf qui est en colère contre...
C'était ça le plus important, en fait. C'était de monter sur scène, bon, en étant moi, mais ça veut dire quoi être toi ? Des fois, je suis pas content, des fois, je suis en forme. Mais c'était d'être OK avec ce que je dis et de le dire pour la bonne raison et pas pour la raison que je crois ou pour me libérer ou pour vider un truc. Bien sûr que ça me fait du bien, effectivement, de monter sur scène et de dire, voilà, je suis cette personne qui s'est fait larguer et qui se remet. Bon, bah, c'est pas facile tout le temps. Hein. Je vois que ça me brasse un peu, quand même. Pas dire c'est ok hein. mais je suis contente de ouais c'est comme si j'étais en phase quoi que il y a pas une si grande différence entre la scène et la vraie vie.
Je pense qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans mon ouais. comment tu penses que la Bérangère d'il y a 10 ans regarde la Bérangère d'aujourd'hui?
Mais ça c'est ouais. Mais moi, ce qui me fait peur parfois, c'est que je me dis, la Bérangère d'il y a 10 ans, elle était à des années-lumière de tout ce savoir que j'ai aujourd'hui, enfin, tout ce que j'ai appris là, mais j'étais. Et j'étais pas capable de le recevoir aussi, tu vois. Il y a un truc où t'es pas capable. Alors, parfois, j'ai le regret de me dire, ah, ça aurait été bien de savoir ça plus tôt.
C'est un chemin.
C'est un chemin. Mais c'est vrai, et parfois, je pense aussi, tu vois. À mes nièces, aux enfants que j'aurai, je me dis, tiens, il faut accepter que l'autre fasse son chemin aussi, qu'il se plante, et ça, c'est dur. Je me dis, mais non, tu vois pas qu'il est là, il te fait chier, mais tu devrais partir, et que t'es incapable de partir. Donc, il y a 10 ans, j'étais dans un autre délire, quoi. J'étais à Paris parce que je voulais être comédienne, je jouais un spectacle parce que j'avais rêvé de ça quand j'étais petite, je travaillais tout le temps, j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'aimais faire en dehors du travail. J'étais toujours avec le mauvais gars, ça n'allait pas, je passais mon temps à parler de ça à mes copines. Enfin tu vois, c'était vraiment beaucoup de temps à parler, à être sur l'extérieur, mais surtout pour pas aller à l'intérieur, c'était le flip total. D'aller voir tout ça.
Ouvrir la boîte.
Ah, ouvrir la boîte, là, le grenier, il était fermé. Il y avait 200, une commode devant, 200 meubles en marbre posés devant la porte. C'était pas possible. Donc, c'est intéressant. J'ai l'impression que là, quand tu me dis ça, je me dis, mais je pourrais lui dire tout ce que je veux. J'ai pas accès, en fait, à cette personne. Ou elle n'avait pas accès à moi. C'est pas, c'est métaphysique. Ouais.
Il y a un truc marrant, c'est que c'est un proverbe, je pense. Hein. C'est en fait, on n'emmène pas à la fontaine un âne qui a pas envie de boire, qui a pas soif, pardon.
Ah oui.
C'est un peu ça.
Ah bah c'est complètement
26
ça.
Piges, c'est un âne qui avait pas soif.
Bah si, en fait, au fond de moi, j'avais très soif, mais mais je savais pas. Je me disais non, je vais plus manger, je pense. Ou faire du shopping. Je vais peut-être faire ça. Non, bois de l'eau, vraiment. Non.
Et de l'eau. Hydrate-toi.
Hydrate-toi. Non, je vais boire des mojitos. Non. Ouais, mais c'est un chemin, ouais.
Donc là, tu joues ton spectacle en janvier, c'est ça ? C'est
alors,
parti ?
Alors, en janvier, ce sera sur la scène de la Gaîté Montparnasse à Paris. Donc, c'est parti, ouais, comme tu dis. Ce sera encore un... Là, le spectacle est dit en création. Parce que quand je suis partie en Australie, j'ai renoué avec... Bah, pour le coup, j'ai fait le stage de « Qu'est-ce que t'aimes vraiment faire ?» Et qu'est-ce qui est vraiment au fond de toi ? Et en fait, je me suis rendu compte que moi, dans le spectacle vivant, ce que j'aimais le plus, c'était... j'avais commencé par le théâtre, et donc j'ai repensé aux costumes, à la lumière, à... Je suis allée voir un spectacle de cirque moderne, donc je me suis dit, oh, cette émotion de quand l'acrobate fait un truc et tu fais... Oh! Tu vois ? Donc, je me suis dit, ah, j'aimerais bien qu'il y ait ça. Et tu sais, je faisais un pot pourri des sensations que j'aimerais qu'il y ait dans le spectacle. Et donc là, sur une tournée de rodage, on peut pas tout faire parce que c'est des petites salles et on est vraiment sur le texte. Et il y a aussi une simplicité qui est super et je trouve vraiment, tu vois, là, j'improvise avec les gens et j'adore ça, c'est simple. Tout est très simple. Les choses se corsent donc à la rentrée puisque j'ai rajouté des costumes. Des costumes de théâtre que je vais faire... Enfin, et qui me rendent hyper joyeuse. En fait, c'est pas vraiment un truc de fringue ou de me changer. Ça raconte vraiment quelque chose.
Ouais. Et c'est bien intégré.
C'est bien intégré. Et puis surtout, c'est une joie pour moi de fabriquer ces costumes, de voir l'évolution. Là, j'ai un essayage demain. on part là-dessus, tu fais attention, tu lèves machin, comment on va l'intégrer après dans le spectacle. Puis le numéro de cerceau, cerceau aérien, donc que j'apprends depuis un an et demi maintenant, et donc qui est une discipline très difficile. Donc c'est un peu le voilà. Donc il y a un peu de...
Pourquoi t'as voulu te mettre au cerceau aérien?
Mais je ne sais pas. Ça m'est venu comme une envie de pisser. C'est intuitif. Je n'ai aucune raison. Alors après, c'est une discipline très difficile.
T'avais
fait jamais
de...
Non.
Non.
Moi, quand j'étais petite, au jardin d'enfants, peut-être un truc où tu marches de barre en barre là, en accrochant avec les bras.
Singe, là, ouais.
Ben moi, je le faisais pas. J'avais trop mal au bras. J'avais peur de tomber. Donc vraiment, il y a pas de. Non, j'avais pensé au départ au tissu aérien. Et puis en fait, non, j'ai vu un cerceau. Alors je m'y suis mise et tout, et ça fait très très mal. En fait, le cerceau, c'est vraiment rigide comme agrès.
Oui, c'est le concept.
Donc tu t'assois comme si t'étais dans un fauteuil, mais t'es sur une barre en fer dans les miches, quoi. C'est vraiment. Et parfois, alors je me suis dit un truc. Je me suis dit que. Comment dire? C'est cet été, pendant mon stage de cerceau, j'avais vraiment mal. Je me disais, mais pourquoi je me fais mal comme ça? Je me suis dit, attends, est-ce que parce que j'ai guéri quelque chose où j'étais dans la douleur de l'amour, la souffrance amoureuse, toujours être... En fait, comme j'ai guéri ça, que je n'ai plus du tout de souffrance amoureuse, eh ben, je me fais mal quelque part d'autre. Bah, je sais pas. Bah, tout ça, je sais pas. Je vais... ou c'est pour me rappeler toutes ces douleurs-là, je sais pas, exorciser un truc, j'en sais rien. Je sais pas.
Il y a peut-être aussi un truc d'apprendre. Un tout nouveau truc.
Oui, mais tu pourrais apprendre la flûte à bec, une clarinette, tu vois, je sais pas, quelque chose qui fait pas mal, quoi. Il y a vraiment plein d'autres trucs à apprendre. Hein. Je sais pas faire de la guitare, il y a plein de choses que je sais pas faire. Hein. De la danse, j'en sais rien. Mais du cerceau, vraiment, c'est douloureux. Mais après, je suis ultra contente quand je dépasse mes limites et que ça prend forme et tout ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Voilà.
Tu vas jouer 4 fois par semaine, c'est ça, à partir
de janvier. Ouais, en plus, je sais même pas si je tiendrai la route avec le cerceau, hein, j'en sais rien. Ça se trouve, au bout de 2 jours, je vais dire non, mais vous savez quoi, on arrête toute cette histoire de cerceau et on va faire des claquettes. Je sais pas. Donc, ouais, donc janvier, ça sera une autre formule, donc il y a encore beaucoup de travail, mais c'est excitant. J'ai une équipe super et tout, donc les lumières, enfin, vraiment jouer à la Gaîté Montparnasse, c'est un vrai petit théâtre à l'italienne, donc. C'est vraiment hybrider le stand-up, le cerceau, le cirque, le théâtre, les lumières, tout ça, quoi.
Bon, bah, on va te suivre, alors. Hein.
Bah, j'espère bien.
Bah oui.
Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire?
Bah, c'est tout, je pense.
Non, c'est bien.
On a pas mal parlé,
non,
ça fait une heure.
Mon histoire avec ma copine, ça me rend triste aujourd'hui. Parce que j'arrive pas à savoir... Enfin, je me remets en question. J'arrive pas à voir ce que je pourrais faire pour que ça s'arrange. Là, on s'en... Enfin,
laisser passer du temps.
Ouais, laisser passer du temps, ouais. Mais bon, voilà. Je sais que je peux être très maladroite parfois dans ce genre de truc. Et quand je suis maladroite, après, je m'en vais. Tu sais, je me mets vraiment dans un petit coin. Je ferme la porte et je fais « Non, je ne suis pas vraiment là. » Et là, je fais un peu ça, et donc, bon, voilà, je voulais juste exprimer que c'est. Ça m'a servi de leçon, et c'est vrai que c'est.
T'es un peu en colère contre toi de pas avoir été plus courageuse, c'est ça ou...
Ouais, je suis en colère pas avoir. En fait, je suis en colère parce que je comprends que si j'avais dit dès le départ, si j'avais su dès le départ que, en fait, il fallait que j'étais en train de reproduire le même schéma, mais que cette fois-ci, il allait falloir que je me sorte les doigts du cul, que je m'affronte, que je me regarde et que je me dise « Qu'est-ce que tu veux putain dire dans ton spectacle ? Sois maître de cette matière vivante, c'est toi qui l'as créée. Bien sûr que tu vas retravailler avec des gens, mais c'est toi qui dois la sortir dès le départ parce que de toute façon, ça n'ira pas si tu ne le fais pas. » Et d'avoir pas su lui exprimer, de me dire « Ah oui, mais quand même, elle a travaillé tout l'été, elle a quand même... » d'avoir peur de la vexer alors que c'est vraiment ce que j'ai fait, quoi.
Ouais.
Et d'être à côté de mes pompes, quoi, et de pas avoir dit non, en fait, là, pardon, mais c'est pas comme ça que je vais travailler.
Parfois, c'est. T'as peur de. C'est ça, t'as peur de vexer les gens. Et donc, en fait, tu finis par pas dire les trucs, et quoi qu'il arrive, tu finis par le faire, mais c'est encore. Quand c'est plus tard, c'est encore pire.
C'est pire. Bah oui, bien sûr, ma peur, c'est matérialisé, quoi. Et du coup, je sens beaucoup de colère, Et c'est difficile, bon, voilà, c'était le chemin aussi de ce spectacle, mais il a fallu vraiment que je me... Enfin, le chemin du stage de l'Ardèche, je veux dire, de se regarder en face, c'est un long chemin, quoi. Parce que là aussi, il fallait que je me regarde en face. Je l'avais fait sur le point sentimental, mais sur le boulot, il a fallu aussi que je me remette en question, quoi.
Je pense que le développement perso tourne dans, d'une manière mainstream, ça tourne beaucoup autour de deviens la meilleure personne que tu es, etc. Et on oublie souvent le côté, ben en fait, regarde-toi vraiment en face avec tous tes côtés négatifs aussi, qui sont des trucs, ce qu'ils appellent la part sombre, je pense aussi, qui est
la part d'ombre.
T'es en colère ou la part, ouais, voilà.
La part d'ombre, et c'est vrai que moi j'ai un thérapeute qui m'a dit, en fait, on fait pas d'or sans plomb. C'est bien, hein?
Ouais.
Bah ouais, parce qu'il me dit, en fait, le moment où t'arrêteras de juger tes défauts, ce que tu n'aimes pas chez toi et ce qui est le mal ou ce qui est pas bien. Ce que ça me fait faire, cette expérience, c'est de dire, bah ouais, je suis maladroite et je peux être très blessante et pas du tout cool avec l'autre, et ça peut le mettre dans une position qui est vraiment pas agréable, quoi. Et de regarder ça en me disant, bon, bah, j'accepte. Je suis comme ça.
Oui.
J'essaye de pas entretenir le truc en me disant oui, je suis hyper méchante avec mes copines, mais je suis comme ça, donc faut pas se cacher non plus là-dedans. Mais de regarder en globalité, effectivement.
C'est tellement mieux de le savoir que de pas le savoir.
Ah bah oui.
Parce qu'une fois que tu le sais, après tu sais que potentiellement tu peux amener les gens vers ce genre de truc, quoi,
ouais,
vers ce genre de situation.
Ouais. Mais bon, c'est mon petit dose du moment à régler. Voilà, je voulais le préciser.
Merci Bérange.
Mais merci à vous.
D'avoir partagé tout ça.
Partager ça, c'était super.
Comment ça va s'appeler ton spectacle ?
Amour.
Ah.
Pourquoi ? j'ai hésité avec part d'ombre, mais non. Ça va s'appeler Amour. C'était en discutant avec Marine Baousson, que je remercie aussi pour ça, qui m'a dit, mais Amour, c'est le thème, c'est tout, c'est machin. Je me suis dit, ah oui. J'avais pas osé, moi, me dire, oh, je vais appeler ça Amour. J'avais toujours l'impression de faire la déesse de l'amour. Bonjour, je suis la déesse de l'amour. Bonjour à tous. Et en fait, c'est le thème du spectacle. Mmh. Et puis, t'as vu, ça parle d'amour, des histoires d'amour, de ce qui nous anime en dessous de quel est ton job, est-ce que t'as acheté ton appart, où tu pars en vacances. Voilà, en dessous, il y a je suis triste parce que je me suis fait larguer, j'aime quelqu'un et j'ose pas lui dire.
D'amour envers toi-même.
Et d'avion, d'amour de ta famille, l'amour envers toi-même. Bon, voilà, du coup, ça regroupait bien tout ce dont j'aborde dans le spectacle.
Excellent titre.
Merci.
Merci Bérange, c'était cool.
Merci à tous, à bientôt. Je vais dormir avant de jouer ce soir, peut-être.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.